C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Bien le bonsoir, Stéphane Waite. Comment ça va?
Mario, ça va très bien, mon ami.
Les fêtes s'en viennent, du bon hockey sur la route. On n'a eu pas ça à avoir des matchs de hockey en masse pendant le temps des fêtes, juste avant de ralentir la cadence. Je te demande une question tout de go, puis je te l'ai pas posée ce matin quand on s'est parlé, Stéphane, mais ce soir, je pense que je vais la poser même aux gens. Je pense que je vais changer de question parce que c'est qui le joueur le plus utile aux Canadiens cette saison?
Eh, bon, juste... C'est une très bonne question. Une très bonne question. Je pense que. Eh, my God.
Pas évident. J'aurais dû te demander de te préparer pour ça, mais c'est ça que j'aime. Non, c'est le Moses que j'aime. C'est que c'est pas évident de répondre.
Oui, ouais, c'est pas évident. Puis, honnêtement, c'est difficile à dire. Ça pourrait que. C'est dur de nommer un gardien de but parce qu'ils n'ont pas joué assez de matchs. Ils ont pratiquement divisé le travail à trois. Au niveau des défenseurs, tantôt Matheson a été très bon, tantôt a été très moyen. Goulet, la même chose. Au niveau de l'attaque, tout le monde a été très irrégulier, compris supposément le meilleur joueur qui est Nick Suzuki, a été des fois bon, des fois effacé. C'est bol. Honnêtement, j'ai pas quelqu'un qui me saute là, qui dit ça, c'est le joueur le plus utile du Canadien jusqu'à maintenant. J'ai bien de la difficulté à répondre ça.
Ben, j'aime ta réponse, puis je vais revenir avec un élément de réponse tout à l'heure. Mais donc, s'il y a personne qui s'est démarqué au point de dire t'as deux, trois candidats dans la discussion, c'est lui le meilleur. Ça veut-tu dire que le reste de l'année, collectivement, l'équipe va être meilleure ou va être pire? Tu sais, comme. Je sais pas si tu comprends, peut-être je le verbalise mal, mais autrement dit, ça va-tu aller en grimpant ou en descendant? Moi, je me dis, écoute, ça a pas grimpé haut ben. Ils sont quand même dans le portrait là où ils sont dans le classement. Fait qu'ils vont-tu s'améliorer? J'ai envie de penser qu'il y a une possibilité que ça soit ça. Je dis pas que c'est garanti, mais ils ont pas été décapants là depuis le début de l'année.
Ben, la question est bonne dans le sens que oui, je pense qu'ils peuvent être encore meilleurs qu'ils sont. Puis malgré tout ça, ils surprennent quand même les Canadiens en jouant en haut de 500. Ils jouent en haut de 500 et puis, peu importe le nombre de games en main ou pas, sont quand même à deux points d'une place dans les séries éliminatoires. Et tout ça après 32 matchs, ce qui est assez spécial, assez surprenant et belle surprise. Et ça, malgré que personne c'est vraiment débarqué dans cette équipe-là, comme que je viens de dire, et j'ai de la misère à nommer un joueur le plus utile. Donc, c'est-tu positif? Je pense que oui. Je pense qu'un Suzuki peut être meilleur. Je pense qu'un Caulfield peut être meilleur. Je pense qu'éventuellement, mais qu'on ait un numéro un établi qui devrait être Sam Montembeault, même s'il va bien, je pense qu'il va être encore meilleur. Je pense que Goulet va être meilleur éventuellement. Ça fait que c'est quasiment encourageant. Slavkovski qui va bien, je pense qu'il peut être encore meilleur. Anderson qui vient de sortir de sa léthargie, je pense qu'il va avoir une deuxième moitié de saison meilleure. Donc, tout ça pour dire, c'est encourageant.
Ben, je suis content que tu partages mon avis, puis je veux pas imposer aucune vision à qui que ce soit, mais moi, c'est comme ça que je le regarde. En même temps, Stéphane, c'est des montagnes russes une saison. T'es à un blessé, des fois, de débouler deux, trois marches. Bon, là, ça commence vraiment bien le voyage hier. L'an passé, ils avaient commencé le voyage avec une victoire, mais ils ont perdu les six matchs suivants dans les deux tranches du voyage. Mais c'est drôle, j'ai pas le feeling que ça va se passer comme ça cette année. Il va y avoir des matchs difficiles, mais hier, qu'est-ce que t'as pensé de leur victoire?
Ben hier, moi j'ai été impressionné. Je sais, j'ai lu beaucoup de choses aujourd'hui, comme de quoi c'était un match en montagne russe ou un match où la première période était très, très plate. Mais j'ai aimé une période plate comme la première période. Pourquoi que ça a été plate? Parce que le Canadien a joué une petite game sur la route, où qu'on prend pas de chance, où qu'on n'a pas d'option, on met la rondelle dans le fond du territoire, où on a travaillé fort en échec avant, où on s'est présenté quand Martin dit à l'intérieur ou en dedans. Mm-hmm. En dedans, là, ça veut dire à l'intérieur des points de mise au jeu, ce qu'on va tout converge vers le filet. Et puis, ça, j'ai aimé ce match-là hier. Et puis pour moi, là, c'est la façon de jouer sur la route. Et j'ai été agréablement surpris de la façon qu'on l'a appliqué enfin.
Oui, t'as raison. Et et j'espère qu'on va. Je suis convaincu qu'ils vont jouer des bons matchs. Le Minnesota, c'est très difficile de gagner à Minnesota. Chicago, je dis pas que c'est facile cette année. C'est une équipe de fond de classement, mais ils ont battu des bonnes équipes également. Tout le monde peut battre tout le monde un soir donné dans la ligue.
Ça sera pas facile à Chicago parce que ça va être le deuxième match de deux soirs en ligue. Ils vont jouer Minnesota et le lendemain à Chicago. Donc justement dans le contexte, ça sera pas facile. Hier à Winnipeg. C'est pas facile de jouer à Winnipeg cette saison. Et ils ont très, très, très bien joué. Et tout ça pour dire que je t'en ai parlé un matin, j'adore cette équipe-là quand on joue sur la route la plupart du temps. Et je déteste cette équipe-là quand on joue à domicile la plupart du temps. Pourquoi? Parce que c'est deux équipes différentes, Mario. C'est deux façons, d'équipes différentes, la façon qu'on joue. On joue à Montréal, j'ai l'impression qu'on veut donner un show, qu'on veut plaire aux spectateurs, qu'on garde la rondelle plus longtemps, qu'on essaye des jeux, des passes transversales, même si les chances sont pas grosses. On essaye de traverser les défenseurs un contre un, même s'il y a rien qui se présente à nous. On essaye la passe de trop. On essaye, on triche beaucoup dans notre zone. On donne beaucoup de surnoms parce que les défenseurs trichent beaucoup. Et quand on va sur la route, oh, complètement une autre équipe. On joue la bonne façon, la façon qu'il faut gagner, en mettant des pucks derrière les défenseurs, en allant plus au net, en prenant moins de chance dans notre zone, en gardant ça simple. Et c'est, pour moi, c'est deux équipes différentes. Et pour moi, c'est la raison pourquoi que à domicile, on a une fiche perdante, deux matchs en bas de 500. Et sur la route, on a une fiche gagnante, trois matchs en haut de 500. C'est complètement deux équipes différentes.
Donc, il faut jouer la game dans la game, comme on la joue sur la route, en quelque sorte, Stéphane. en tout cas, il joue une meilleure game de petits détails sur la route. Si le Canadien réussit à maintenir cette cadence-là sur la route, et amener de ce jeu-là à maison, ça devient-tu une équipe qui lutte pour les séries assez tard?
Ben, écoute, ça regarde bien. Ça regarde bien pour disputer des matchs significatifs dans la deuxième moitié de saison. Et si on réussit ça, ben, je pense que c'est un pas d'avance sur l'année passée. Et puis, en ce moment, ben, écoute, faut le donner crédit. Ça va bien. Et puis, hier, encore une fois, j'ai aimé la gestion de rondelle qui est un des gros problèmes du Canadien. Et puis en ce moment, mais écoute, comme je te dis, si cette équipe-là peut jouer mieux à la maison, on joue même pas pour 500. C'est là le gros problème du Canadien, c'est de la façon qu'on joue à la maison. Puis ça, c'est un manque de maturité et d'expérience. C'est des jeunes qui arrivent à la maison, sont émotifs devant notre foule, une foule qui est très, très bruyante, très dans le match. Donc, nos jeunes veulent donner un show, et c'est pas le même que tu gagnes des games de hockey.
Si je te demande, Stéphane, là, on joue au DG, au gérant d'estrade, là, on se donne des paramètres pour se dire, on échange Monahan si, ou on n'échange pas Monahan si. Qu'est-ce que tu rajoutes au bout du si dans une option ou dans l'autre?
Si on a un joueur qui peut nous aider, cette année et dans les prochaines années. Un bon joueur qui peut nous aider cette année et surtout pour le futur. Sinon, je garde Monahan parce qu'on a besoin de tes joueurs-là. Tu ne peux pas avoir juste des jeunes parce que c'est dangereux. Il faut t'entourer tes jeunes avec des bons vétérans. Puis à toutes les fois qu'on a un bon vétéran dans l'équipe, si on l'échange parce que oui, des bons vétérans, il y a une demande pour ça. Mais à un moment donné, on va se retrouver avec une équipe de jeunes et des vétérans que personne ne veut. Donc ça peut être dangereux. Et quand on dit « entoure tes jeunes de vétérans », il y a le mot-clé, c'est « entoure tes jeunes de bons vétérans ». Pas parce que t'es un vétéran que t'es un bon vétéran. Pas parce que t'es un vétéran que t'as une bonne influence. Ça, faut faire attention à ça. Et puis, je pense qu'en ce moment, le Canadien est rempli de bons vétérans. Les bons vétérans, on parle de qui? On parle de Madison, on parle de Savard, on parle de Monahan. On peut même inclure là-dedans un Anderson qui, moi, j'ai tout le temps trouvé qu'il avait une bonne une bonne influence sur l'équipe. On inclut Gallagher.
Allen.
Tous ces gars-là, Allen, c'en est un. Mais ça veut pas dire de toutes les garder.
Mais non.
Mais la plupart, faut que ça prend des bons vétérans pour entourer ces gars-là. Puis le Canadien, cette année, comparativement à l'année passée, sont une équipe avec des bons vétérans.
Monahan, là, honnêtement, moi, en tout cas, je vais prendre position tout de suite. Si c'est pour des choix, là, je passe un autre appel. Bye bye.
Je suis d'accord.
Rappelez-moi une autre année.
Les choix, là, c'est bon pour le prochain coach puis le prochain gérant général.
Mais
là,
Steph,
en ce moment, on a assez.
Je m'excuse, mais je veux juste te rajouter ceci. Je te dis pas que je le signe automatiquement pour l'an prochain. Mais si je suis d'un semblant de lutte, je finis l'année avec. Parce que je sais pas si Monahan a, je sais pas combien, 5, 6, 7 millions, c'est la même affaire, tu comprends? Là, c'est une aubaine.
Totalement d'accord.
Tu sais?
Totalement d'accord. Écoute, si tu es dans la course qu'à la fin, mais tu prends une chance en gardant Monahan, à moins que quelqu'un t'offre, comme je te dis, un bon espoir pour les prochaines années.
Oui.
Mais sinon, et je suis d'accord encore avec toi, Mario, ça ne veut pas dire qu'on le signe l'année prochaine, parce que si Monahan demande, faut pas moins 5, 6 millions pour 2 ou 3 ans, peut-être que ça ne fitera pas dans la masse salariale du Canadien, et loin de là. Donc, je suis d'accord avec toi, mais cette saison, écoute, j'adore l'apport qu'il apporte aux jeunes et il fait une bonne job.
Stéphane, je reviens à la question de départ. Quel est le joueur le plus utile du Canadien depuis le début de la saison? Puis ton hésitation, j'ai eu la même hésitation quand Michel Lebeune m'a posé la question un petit peu plus tôt aujourd'hui. Et j'ai répondu finalement, puis même affaire que toi, les gardiens ont pas assez joué pour être considérés le joueur, mais les trois gardiens, pour moi, sont le joueur, si tu veux, là. La position de gardien, à mon avis, c'est là qu'on a excellé le plus. Et sais-tu quoi? Il y a une statistique qui dit combien de matchs ont été volés par des gardiens dans la Ligue nationale. Tu vas rire. Le premier dans ce classement-là, c'est Lindgren, notre ancien joueur du Rocket, surtout, qui a volé 4 matchs. Primo et le deuxième ont dit qu'il en a volé 2. Allen en a voté, Jake Allen en a volé 3 et Sam Montembeau en a volé 3. Ça veut dire, ça fait 8 matchs volés par les gardiens des Canadiens. Et le Canadien a joué 12 matchs en prolongation depuis le début de la saison, en a gagné 8, en a perdu 3 en tir de barrage et 1 en prolongation à la régulière. Donc, les gardiens, c'est là qu'on a le plus excellé. Alors, qui goal jeudi puis vendredi?
Ben là, d'abord, si les trois vont bien, écoute, tu sais, ça a pu lui faire, mais...
ça doit devenir difficile à gérer.
Il y en a fait qui est sûr, c'est que j'ai l'impression que les matchs dans la fin de semaine, back-to-back, mais il faut quasiment que... faut que tu reviennes avec Primo et Sam, ou Sam et Primo. Primo a joué son dernier match à son dernier départ, il y a déjà quasiment 2 semaines. Contre les Sabres, ce qui a été incroyable.
Oui.
Et puis, là, t'as Jake qui joue hier, qui est super bon. T'as Sam qui va très bien dernièrement. Donc, faut que tu ailles avec, surtout que c'est les deux derniers matchs avant Noël. Tu veux pas qu'un gars comme Primo revienne après Noël, où ça va faire quasiment 18 jours sans jouer. Ça n'a aucun bon sens. Donc, t'as pas le choix de jouer les deux en fin de semaine. Et puis, Montembeau, et ça va être probablement Montembeau à Minnesota et Primo contre les Hawks.
À suivre, et demain, on t'accueille en studio pour notre spécial Noël des amateurs de sport. Bonne fin de soirée, Steph. Merci d'avoir été là.
Merci, à demain.
Bye-bye. Et dans quelques instants, Guillaume Latendresse.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté.
Salut Guillaume.
Salut Mario.
Considères-tu que c'est un exploit que le Canadien soit là où ils sont au classement, ou c'est la Ligue qui en arrache plus qu'on pense chez beaucoup d'équipes?
Ben, je pense qu'il y a des équipes qui ont Ben oui, mais tu sais, en même temps, j'allais dire, il y a des équipes qui déçoivent si on pense à certains clubs, mais en même temps, il y en a d'autres qui surprennent. Fait que tu sais, c'est un balancier.
Ouais,
exact. Fait que tu sais, non, je pense que c'est une belle surprise, honnêtement, après ce nombre de matchs-là, que les Canadiens soient rendus là au classement, puis réussissent à gagner des gros matchs. Puis tu sais, on remarque quand même que tu sais, quand on affronte des équipes plus ordinaires, des fois, on a de la misère. Puis quand on affronte des clubs comme Winnipeg qui a une bonne saison, ben on réussit à aller chercher un 2 points. T'sais. Fait que c'est comme c'est assez bizarre, mais il reste que dans l'ensemble, là, ouais, on peut. Je veux pas dire un exploit, mais c'est assez impressionnant jusqu'à maintenant.
Je vais te poser la même question qu'à Stéphane tout à l'heure. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter, mais selon toi, qui est le joueur le plus utile aux Canadiens depuis le début de l'année?
Oh tabarouette, c'est une bonne question, ça. Mais je pense que chacun leur tour, les gardiens ont eu un rôle à jouer quand même dans certains matchs. Là. C'est veux pas, ils ont été solides. Par la suite, c'est sûr que tu sais, ben ouais, c'est dur comme question. Le joueur le plus utile. Ouais, c'est une bonne question. Je serais porté à parler des jeunes, tu sais, de la brigade défensive qui réussit à amasser des buts. Tu sais, il y a comme plusieurs surprises, puis on dirait que c'est comme plusieurs moments de la saison. Tu sais, au début de saison, je t'aurais dit Gallagher. Là, c'est Josh Anderson qui est en feu. La brigade défensive qui depuis le début de la saison, qui ramasse des points. Les gardiens, chacun leur tour un peu à quelque part. Fait que, tu sais, c'est comme... on dirait que j'ai de la misère à juste pointer du doigt une personne. Stéphane avait dit qui, lui?
Ben, il est embêté comme toi. Je pense qu'il a dit... Okay. Et sa première réponse a été Moses. Moses. Okay, bon. Alors, un peu, même affaire que toi, puis à réfléchir à voix haute. Et moi, je me sers de cette question-là pour qu'on avance un petit peu dans la discussion. Puis, donc, Guillaume, c'est pas comme une équipe. Tu dis, OK, tu sais, t'es surpris qu'ils sont là au classement. Puis c'est pas comme un train qui fonce à une allure illogique de dire, hey, la chaîne va débarquer bientôt. Là. On s'entend, ils surperforment pas non plus. Ils sont là... Pas parce qu'un gars charrie l'équipe, là.
Non, mais je pense qu'ils réussissent à... Tu sais, ils ont pas eu de victoire extrêmement décisive. Il y a eu plusieurs matchs, pareil, qui auraient pu virer d'un bord puis de l'autre.
12 prolongations.
Exact. Fait qu'enlève 12 points au classement, puis t'es en bas, tu sais.
20 points sur 24 en prolongation fusillade, tout ensemble, Guillaume.
Fait que c'est énorme, là, tu sais. Fait qu'il y a quand même un 25 cents qu'on flippe puis qu'on dit ces soirs-là, t'es échappes, ou juste la moitié de ces matchs-là, t'es gagnes pas, ben ça commence à faire du stock pareil, un 6-8 points que tu laisses partir, t'es plus à la même place au classement pantoute. Fait que est-ce que je suis prêt à dire que c'est un club qui va être comme ça sur la vague toute la saison? Je suis pas encore prêt à le dire.
Moi non plus.
Mais qu'on remporte des matchs un peu plus décisifs puis qu'on sent, tu sais, on a des matchs extrêmement serrés, mais encore, ils surprennent puis ils sont solides. Là.
Si tu prends, puis je tourne autour, tu sais, sans parler là, en termes de points, qu'est-ce que ça va vouloir dire, mais si tu prends les individus, donc les joueurs de cette équipe-là, et en considérant, grosso modo, sans y aller joueur par joueur, là, le début de saison dans l'ensemble des principaux éléments, t'en vois-tu beaucoup qui vont piquer du nez parce qu'ils ont eu un début de saison incroyable, ou t'as plus tendance à penser qu'il y a plus de joueurs qui vont être mieux que ce qu'on a vu dans la première portion du calendrier?
Ouais, mais je pense que, tu sais, mieux, c'est sûr qu'on s'attend à Suzuki, qu'on s'attend à Caulfield, que ça soit mieux. Fait que de ce côté-là, je pense que c'est important que le Canadien soit capable de continuer. Mais sinon, tu sais, des joueurs qu'on peut s'attendre à mieux, c'est là, Anderson, c'est sûr, tout le monde s'attendait à mieux. C'est un gars comme Jake Evans qui commence à avoir un peu plus de glace. C'est des Slavkovski qui sort de sa coquille un peu.
Dvorak,
hier, qui a eu un but refusé, mais que, tu sais, fait que, j'ai de la misère à dire que je pense pas en avoir qui vont descendre, mais faut admettre que les matchs vont devenir plus serrés. Là, les clubs vont sentir la pression. Le marché des joueurs, des échanges va se tailler. Ça va arriver plus serré. Après ça, on va s'en aller vers l'été, vers la fin de saison et séries éliminatoires et autres. Fait que, ça va être important, tout ça, là, tu sais. Fait que, plus t'avances dans la saison, plus qu'il y en a qui vont se prouver, plus qu'il y en a qui sont dans l'échec des playoffs. Fait que là, il y a comme une petite poussée. Fait que c'est tout ça qui va être intéressant de voir, là, comment le Canadien va être capable de naviguer là-dedans. Là.
Nous autres, on est juste contents qu'ils nous tiennent intéressés. Et tant mieux s'ils nous en donnent plus. Mais moi, je me réjouis de ça, Guillaume.
Ouais, mais tu sais, je pense que la meilleure apprentissage, oui, c'est dans la victoire. Mais un autre bel apprentissage, c'est dans des matchs serrés. Tu sais, au final, quand tu te retrouves, comme tu dis tantôt, le nombre de matchs en fusillade, en prolongation, mais c'est des matchs que c'est de l'apprentissage, où ce que la pression est élevée, où ce que tes meilleurs joueurs se doivent de te faire gagner. Ça, pour moi, c'est de l'apprentissage. Je sais, quand la game est sur la ligne, puis c'est Caulfield qui réussit à te faire gagner, mais pour moi, tu viens de prendre un pas dans la bonne direction vers l'avenir, tu sais. Fait que c'est toutes ces choses-là, pour moi, qui font en sorte que le Canadien a quand même grandi. Tu sais, hier, oui, on commence en avantage numérique, mais c'est quand même Justin Barron qui marque ce but-là. Tu sais, fait que c'est super ce qu'on voit présentement. C'est le fun, puis je pense qu'il y a un apprentissage qui s'en vient. Mais tu sais, il y a eu quand même des hauts et des bas dans toute cette saison-là quand même.
Ben oui, et c'est ça, moi, que je m'étonne du fait que malgré ça, malgré qu'on a l'impression que la chaîne avait ou était sur le point de débarquer, ils sont là, puis je vois un potentiel, ça veut pas dire que ça va se concrétiser, mais un potentiel d'amélioration individuelle et par la suite collectif.
Moi, mon seul problème, Mario, dans ce que tu dis là, puis je suis d'accord avec toi, c'est face à l'avenir. Tu sais, je regarde cette équipe-là, on grandit, mais en même temps, tu sais, on parle souvent qu'on est jeune. On a un premier trio jeune, oui, Suzuki, Caulfield, Slavkovski. Après ça, tu t'en vas avec Gallagher, Anderson, Evans. C'est plus des jeunes, là, tu comprends? Fait que t'as pas personne là-dedans qui va te faire gagner une Coupe Stanley là, comme premier centre. Là, tu sais, je veux dire, je pense que Suzuki, le jour qu'on va gagner, tu vas avoir quelqu'un qui va signer joueur autonome ou tu vas avoir un joueur vraiment électrisant. Tu sais, t'as besoin de deux top 6 à l'avant pour gagner une Coupe Stanley encore. Je pense pas que Suzuki Caulfield, ça va être eux qui vont être en avant avec le drapeau pour te faire gagner ce Coupe-là.
Ah, ben moi, je parle pas de Coupe Stanley, là. Tu sais, ça se peut.
Dans l'avenir, quand t'sais, je regarde l'équipe en ce moment, là.
Oui, ah, oh, oui, c'est sûr que ça va prendre plus de talent, mais en attendant, vois-tu un inconvénient à ce qu'on soit le plus compétitif possible?
Non, au contraire. Tu sais, au final, je pense que le Canadien va être des matchs, va être là certains soirs, il va peut-être n'échapper un peu plus peut-être parce que comme je disais, ça va donner plus serré. Mais non, c'est tu sais au final gagner des matchs là, c'est là que t'apprends à gagner, t'apprends à bâtir une culture, c'est certain et tout ça c'est important de le faire. Mais je pense aussi qu'il y a un processus d'apprentissage qui va avec ça, que faut accepter certaines défaites certains soirs.
OK, j'aimerais que tu m'expliques. Ben, faut accepter de perdre, ils gagneront pas toutes, mais qu'est-ce que tu veux dire par là?
Ben, moi, mettons, un joueur qui fait une erreur, c'est correct de le remettre sur la glace, puis, tu sais.
Ouais.
Moi, tant que c'est dans l'effort, l'attitude est là, j'ai pas de problème à ce qu'on revive avec certaines erreurs ou certaines choses. Mais il y a des certaines erreurs ou certains entêtements qu'on a vu peut-être par le passé de certains joueurs. Je pense à des Galchenyuk ou des gars comme ça qui semblaient pas vouloir embarquer dans le moule. Ça, on peut pas accepter ça. Mais je veux dire, de gagner des matchs serrés, de gagner des matchs, ça, c'est important pour la jeune équipe. Puis d'en perdre aussi des matchs où t'as tout donné, puis tu fais comme tabarouette, on l'a échappé pareil. C'est important, ça aussi, de vivre cette adversité-là, cette déception-là pour grandir comme équipe aussi. Là. Ouais.
Puis là, c'est le fun parce qu'on peut faire des émissions sans tout le temps ramener le fait que Dak ne joue pas. Et un jour, il va revenir, puis la saison prochaine. Alors moi, j'aime ça qu'il reste compétitif. Marc-André Fleury n'a pas été désigné pour garder le filet de son équipe, le Wild du Minnesota, hier, alors que son club rendait visite à Pittsburgh. Potentiellement, une dernière présence pour Marc-André à Pittsburgh. Est-ce que c'était la meilleure décision pour un coach qui voulait gagner un match important pour eux ou pas?
Ben, dans un 2-on-2 comme ça, je comprends Gustafsson qui fait très bien, mais je veux dire, dans un 2-on-2, c'est Fleury qui est infilé ce soir contre Boston. Donc, tu sais, le match qui est apporté de la main du Wild, c'était hier contre les Penguins de Pittsburgh, que tu mets Marc-André, Gustafsson ce soir, tu le mets contre les Bruins. Tu sais, je pense juste que c'est le standard là-dedans pour moi. Tu sais, il y a certaines, puis je suis d'accord, tu sais, au final, tu veux gagner, c'est une ligue de performance, tu veux gagner des matchs, je suis d'accord avec ça à 100%. Mais il reste que pour moi, il y a certaines choses qui vont au-delà du sport. Tu sais, quand un Québécois joue à Montréal, souvent on le voit sur le starting line-up. Quand, tu sais, mais Marc-André Fleury, là, il va être au temple de la renommée. Il a gagné 3 Coupes Stanley à Pittsburgh. Il est respecté des coéquipiers. C'est un gars que les gens voulaient voir là-bas, s'ennuient de lui. Puis pour moi, je trouve que ça a été une occasion extrêmement manquée de la part de John Hines dans ses débuts avec le Wild, d'aller chercher l'amitié ou l'amour, de même si c'est pas une partie d'amour, mais d'aller chercher cette confrérie-là avec ses joueurs.
Et tu penses que ça y aurait rapporté auprès de son club? Parce que, tu sais, demain, exemple, où jeudi, Canadiens joue à Minnesota, puis ensuite à Chicago. T'as pas personne à qui faire plaisir. Toi, tu veux-tu t'assurer de mettre ton meilleur gardien dans le deuxième match, puis on va voir le premier, ou tu veux t'assurer de gagner le premier, puis on va voir le deuxième?
Mais tu sais, si t'as des... Si t'as, mettons, un gardien vraiment, t'as un Carey Price, puis après ça, t'as un gardien B ou C comme deuxième, je suis d'accord. Mais tu sais, Gustafsson puis Marc-André Fleury, tu me donnes 25 matchs d'une saison, je suis pas certain qui je mets les 25 matchs, je comprends ce que je veux dire. Mm-hmm. Fait que c'est deux gardiens A de grande qualité, Peut-être Marc-André performe un peu moins que l'autre cette année, mais pour moi, je trouve qu'on se doit certaines fois, dans des situations d'égalité comme ça quand même si l'autre avait une séquence, dans une situation d'égalité comme ça, il y a un certain moment où ce que tu dois le faire. Puis je dis pas que les joueurs, ils vont faire voyons, il a manqué le bateau. Mais la seule affaire qu'il aurait pu faire, c'est il y a pensé. Tu comprends? Je veux dire, tu sais, comme un jeune qui a deux buts là, dans une équipe à reconstruction, des fois, tu fais comme il a pensé. C'est aussi stupide que ça, mais les joueurs font comme le coach est allumé là-dessus. C'est important pour les joueurs, des petits détails comme ça que l'entraîneur se met.
Mais c'est sûr que ces arguments-là viennent nous toucher. Et peut-être que ça aurait été comme un pile ou face, puis il aurait dû placer Marc-André devant le filet hier. Je sais pas quelle était la bonne décision, mais je sais pas si c'est à cause de l'agent, mais tu trouves pas que Marc-André, je sais que c'est un intouchable, là, c'est monsieur gentilhomme, hockey, sourire, mais tu trouves pas qu'il devient une distraction pour ses équipes?
Ben, c'est souvent parce qu'il est dans un rôle où il met de la pression sur le gardien numéro un ou tu sais qu'il réussit à voler les postes après ça. Il est toujours dans des situations un peu il vient voler un rôle, il vient appuyer un jeune, même si c'est le meilleur vétéran que tu peux avoir dans un vestiaire. Fait que c'est sûr que ça chambarde quand même des idéaux.
Mais au-delà de ça, souviens-toi de Walsh avec la photo du sabre qui lui transperce le corps. Ouais. Ensuite, le masque. C'est une bonne idée, le masque. Mais ce que je veux dire, on en parle beaucoup, mais pas pour ses performances.
Ouais, c'est sûr que il y a certaines situations qui sont arrivées. T'sais, mais t'sais, du côté de l'agent, je pense pas que tu peux le contrôler. T'sais, regarde la suspension de David Perron la semaine passée, à quel point Alan Walsh est sorti contre la Ligue nationale, puis Gary Bettman avec des clips des dernières années. Fait que Alan Walsh, je pense que c'est un agent qui fait à sa tête un peu puis qui va comme ça. T'sais, fait que faut pas rattacher les joueurs à l'agent non plus. C'est sûr que le masque, ça a fait parler, mais en même temps, pour lui, c'était quelque chose qui était important. Qui aurait jamais dû devenir une controverse. T'sais, en vrai, c'est ça la réalité.
C'est la bonne réponse, oui.
La controverse, c'est pas Marc-André, c'est la Ligue nationale qui se mêle de ça. T'sais.
Excellent point de vue. En 15 secondes, je sais que c'est pas évident pour rendre justice à la réponse que tu peux nous donner, mais Daniel Alfredson peut-il devenir un Martin Saint-Louis? T'as joué avec.
Oui, 100%. Pour moi, quand je jouais avec les Sénateurs en 2013, c'était quasiment un coach. On avait besoin de congés. Il allait voir le coach, quelque chose dans le système de jeu, il allait voir le coach. Tu sais, il y avait des discussions, c'était Paul McLean dans mes années, puis tellement de respect pour les entraîneurs puis la façon de jouer à la game. C'est tellement une bonne personne que 100%.
Fait que tu le vois devenir coach en chef.
Ah oui, sans hésiter ce gars-là pour être coach en chef.
Wow, merci Guillaume.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Accueillons maintenant Daniel Sauvageau. Bonsoir, Daniel.
Salut, Mario. Comment vas-tu?
Ça va très bien. J'espère que tu vas bien toi aussi à travers ton camp d'entraînement. La saison commence bientôt.
Oui. La saison, en fait, le premier match aura lieu à Ottawa le 2 janvier prochain et le premier match à Verdun au centre le 21-02 le 13 janvier. Et puis, on a annoncé là, que l'ensemble des billets était vendu et ça va super bien là, pour les matchs subséquents. Alors, je suis bien content.
Excellente nouvelle.
On est bien content.
Je m'en réjouis. Puis, j'espère que ça va être de même à tous vos matchs. Pourquoi pas? C'est possible.
Ben, pas,
et même à la Place Belle, ça va devenir une grande fête. Daniel, si tu avais été l'entraîneur du Wild du Minnesota hier, le Wild qui joue à nouveau ce soir, deux matchs en deux soirs, Marc-André Fleury devant le filet à Boston, mais c'est pas le Marc-André Fleury que les gens voulaient voir à Pittsburgh hier. Est-ce que c'était une distraction? A-t-il pris la bonne décision? Qui aurais-tu placé devant le filet si tu avais été là?
Fleury. J'ai beaucoup de sensibilité pour ce genre de contexte-là. C'était probablement son dernier match là, qu'il aurait pu jouer là-bas. Il y a encore beaucoup d'amis. Comme tu sais, il est apprécié non seulement dans cette ville-là, mais à travers la Ligue. Futur Hall of Famer. C'est sûr qu'à la première chance qu'il aura, on le verra là, et on l'entendra faire son discours. Alors pour moi, je suis sensible à ça. Est-ce que c'était dans une situation justement qu'on se devait absolument de gagner? Je pense que non. On l'a vu là aller cacher un casque à ses adversaires. Alors on le connaît comme ça. Alors pour moi, ça n'aurait pas été une distraction ni pour son équipe, mais plutôt là, je pense que c'est du hockey de spectacle aussi. Et les fans en auraient été réjouis.
Et il est devant le filet ce soir et c'est 2-1 actuellement pour l'adversaire, les Bruins de Boston. Un gros défi que de battre les Bruins sur la route. 2-2 à l'instant même. Ah, ils ont créé l'égalité.
Alors voilà.
Mais écoute, je ne peux pas présumer du résultat, mais est-ce que tu penses que les joueurs... Tu sais, les joueurs, ils veulent pas être pris en sandwich d'un vote de popularité entre deux coéquipiers, Daniel?
Oh non, 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 non. Ça, c'est la dernière chose dans un premier temps que les leaders de l'équipe veulent voir à l'intérieur du vestiaire. Alors, je suis convaincue, j'ai eu l'occasion de le rencontrer là à quelques reprises lorsqu'il était invité là, à des camps de Hockey Canada et même des championnats du monde. Et c'est le dernier qui aurait voulu ça. Alors, moi, je suis convaincue qu'il doit avoir joué plus de petits tours à ses coéquipiers, de faire pareil que tout, il était correct avec ça. Et même probablement dire qu'il a fait partie de la peut-être même de la décision, mais ça demeure que c'est non, c'est un point qui est important. Une des choses qui est de plus en plus recherchée, qu'on considère, que les GM, les directeurs généraux considèrent lorsqu'on veut soit acquérir un joueur, c'est quel genre de coéquipier il est. Est-ce qu'il est un bon coéquipier ou pas? Et dans son cas, oui. Alors le reste des coéquipiers ne veut pas justement placer ces derniers-là en compétition.
Le fait que le Canadien a gagné beaucoup de matchs en prolongation, 8 sur 12, 20 points sur une possibilité de 24 en prolongation, bon, ça veut dire qu'il y a beaucoup de matchs serrés qui ne l'ont pas facile souvent. Fait que c'est-tu une indication pour toi qu'à un moment donné, la chaîne va débarquer ou tu vois un grand potentiel d'amélioration plus qu'un potentiel de d'écrasement?
Non, c'est l'inverse. Il faut apprendre à ce genre de situation-là. La même chose lorsque le Canadien s'est retrouvé là, la semaine dernière à mener par 4 buts et gagner 5-3 à la fin. Ce sont des genres de situations que tu veux aller faire. Tu veux savoir que tu es capable d'aller gagner jusqu'à la dernière seconde. Et puis on l'a vu là, dans bien des cas, d'être capable de se battre, d'être capable là, de continuer sur le plan technique individuel de gagner ses batailles, des courses aux rondelles. Alors, ce genre de situation-là, ça s'apprend pas. Tu peux en parler jusque faire du vidéo jusqu'à 4h du matin, si tu veux. Mais de se retrouver dans ce genre de situation-là, ça démontre justement qu'il y a des choses qui rentrent en place. Il y a peut-être des mauvais moments, des mauvaises périodes. Et j'entends souvent dire, le Canadien a gagné, c'est pas un match parfait. J'en ai rarement vu des matchs parfaits. Et même là, si on veut vraiment décortiquer, c'est même très, 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 très rare. Alors, encore une fois, d'être capable de jouer, de revenir dans le match, d'aller en prolongation, ça peut être taxant parce qu'on sait que surtout là, dans les 2-3 derniers matchs, le quatrième trio a peut-être un peu moins joué. Mais encore une fois, c'est bon pour le moral, c'est intéressant. Puis tu as le goût de continuer à t'améliorer parce que veux pas, c'est des bonnes nouvelles puis ça donne l'énergie beaucoup plus que ça en enlève.
Question toute simple que je te pose, tout comme à Guillaume et à Stéphane. Qui est le joueur le plus utile aux Canadiens depuis le début de la saison?
Je pense que ça varie d'un moment à l'autre. On peut quasiment dire par ses statistiques en mois de décembre que c'est Josh Anderson dans les dernières semaines. Mais c'est un peu ça. Et je pense qu'on va le voir en dedans de scie. Alors, c'est pas que un joueur... Puis c'est ça d'arriver à... Lorsque tu es entraîneur puis tu évalues ton personnel, tu dis, bon, ben peut-être que Anderson, il a continué à travailler. Bon, on s'attend, peut-être pas sur la feuille de pointage, mais ce qu'il livre comme performance, c'est ce qu'on s'attend. Alors, t'évalues tes joueurs. Si, mettons, t'as un jeune dit, hey, toi, là, tu vois un 3, je m'attends ce soir à ce que ta performance soit minimalement un 3. Ici, tu peux jouer un 3.2, un 4, un peu avec de la magie, ben tant mieux. Puis si l'autre à côté vaut un 7, ben tu ne demanderas pas un 3, tu vas lui demander aussi un 7. Donc, de rechercher la constance. Alors, ça, il y en a qui en ont eu davantage. On a vu Caulfield, à un moment donné, moins marqué, travaillait fort, on lui a demandé de jouer différemment. Nick Suzuki, il y a des soirs qu'on le voit pas ou pratiquement pas. Il y a un match, notamment, la dernière fois que Calgary est venu à Montréal, puis tout d'un coup, il y a quand même 2 points sur la feuille de match. Alors moi, je pense que c'est pas un joueur qui mais plutôt par séquence. Puis je pense que c'est intéressant. Puis à un moment donné, tu en as 3 par match. Puis c'est comme ça que tu vas retrouver la constance.
Et ça illustre que c'est un sport d'équipe. Mais généralement, quand on pose une question comme celle-là, tu sais, il y a 2-3 noms qui reviennent de façon évidente. Et là, les joueurs qui normalement seraient des réponses évidentes à cette question-là, Ben, on les mentionne pas. Qu'est-ce que ça veut dire de la saison de Cole et de Nick, notamment?
Ben, ça veut dire qu'on leur demande de jouer différemment. On leur demande de jouer aussi. Hein, on a vu Cole Caulfield, à un moment donné, davantage jouer sur le deuxième trio. Ça fonctionnait plus ou moins. On voulait les exposer à d'autres coéquipiers. On les a ramenés ensemble. Ensuite, on parlait beaucoup de Slafkovský, puis tout d'un coup, c'est un joueur qu'on se projette dans le temps en disant presque que ça va être la vedette du Canadien dans deux, trois ans. Alors, il faut aussi faire attention, c'est qui les gros joueurs de cette équipe-là. Souvent, on va associer la performance d'un joueur à son salaire. Ben, c'est un joueur-là, il devrait être meilleur que ça parce qu'il fait tant par année. Lui, ben, on s'attend moins parce qu'il fait un petit peu moins. C'est un salarié moyen ou un bas salarié. Alors, je pense qu'il faut aussi faire attention à ça. Alors, ça veut pas dire que ces joueurs qui n'ont peut-être moins de statistiques, Suzuki, encore une fois, il continue de jouer match après match, il joue ses minutes, par moment, il joue trop. Au début de l'année, il y avait beaucoup, beaucoup de minutes, pas bon sur les changements, il tirait ses changements, on lui disait qu'il va être brûlé. Alors, le niveau d'énergie aussi varie d'un moment à l'autre. Alors, pour moi, ça m'inquiète pas nécessairement parce que, au contraire, ça donne de la place à l'autre.
C'est rendu 3-2 pour le Wild du Minnesota. Il reste 3 minutes 20 seulement en troisième période. Alors, je sais pas si le Wild va aller chercher ce match-là à Boston, mais tout est possible. Les voyages du temps des fêtes, Daniel, toi, t'aimerais-tu que ton club soit sur la route ou t'aimerais mieux avoir ton club à domicile? Le Canadien, c'est en deux temps. Il revient à la maison pour célébrer Noël, mais il repart tout de suite après pour jouer 4 autres matchs.
Mais c'est ça, c'est un peu la pause obligatoire dans le temps des fêtes. Puis on sait que le Canadien n'est pas ici. Il y a toutes sortes d'événements. Le Centre Bell hein, demeure un des amphithéâtres les plus utilisés en Amérique du Nord pour autres événements qu'un match d'hockey. Alors historiquement, c'est une des raisons pour laquelle on perd notre équipe dans le temps des fêtes. Comme entraîneur, encore une fois. Lorsque tu regardes ton équipe, ben tu peux avoir d'un côté moins de distraction pour les plus jeunes, moins d'engagement familial pour les autres. Alors, ça te permet d'avoir d'augmenter la cohésion puis de focus. Tu peux faire plus de vidéos, tu peux rencontrer plus, de faire plus de rencontres individuelles. Quoique sur la route aussi, là, certains, je les entends dire, il y en a autant, sinon plus,
oui.
Des distractions lorsque l'équipe se retrouve sur la route, mais c'est un bon dosage. Alors oui, le Canadien revient à la maison, mais techniquement, ils sont sur la route pour l'ensemble de ces matchs-là.
Oui.
Avant Noël, on les a vus gagner, hein, on les a vus gagner cette semaine, mais après Noël, c'est des grosses équipes. On aura là avant Noël, notamment Chicago, Tampa, si j'ai bonne mémoire, mais après ça, là, c'est Dallas, Buffalo, New York. Alors, c'est un long voyage et avec l'équipe évidemment qu'ils ont, pourraient peut-être jouer les underdogs, par exemple, de dire « Ah, c'est après Noël et on reçoit le Canadien, c'est pas une équipe de premier plan », alors pourrait potentiellement surprendre, contrairement à l'année passée, là, qui s'était fait donner quelques leçons de hockey.
Ouais, après leur première victoire l'an passé dans le périple, ils avaient joué quelques matchs serrés, les matchs suivant leur victoire, mais les matchs après leur congé obligatoire, là, oups, là, ça a vraiment glissé. Mais ils nous gardent intéressés, Daniel. Mais c'est une meilleure équipe sur la route, en tout cas, là, les performances sont là, ils jouent pas de la même façon. Puis tu vas me dire, si on tombe dans les clichés, Los Angeles, un des bons clubs de la Ligue, aussi a une bien meilleure fiche sur la route. Elle est presque parfaite qu'à la maison. C'est ça qui est ça. C'est difficile à expliquer, par contre. Par moment, oui, on vient dans les réponses qu'il y a peut-être moins de pression, on est moins dans la dentelle. Aimes-tu mieux les deux points ou jouer un match qui est une œuvre d'art ou aimes-tu mieux un Picasso ou les deux points?
C'est les deux points. Je le disais tantôt, un match parfait au hockey, ça n'existe quasiment pas, même si c'est des grands matchs. On retrouve souvent de grands moments à l'intérieur même d'un match. Mais c'est la constance. Je pense que Martin Saint-Louis en parle souvent. On l'entend dire là, dans les dernières semaines, je veux que mes gars aient joué en dedans, c'est-à-dire à l'intérieur des points de mise en jeu, dans le bas de l'enclave, se sacrifier à la limite. Et c'est un peu de ce qu'on a vu avec Anderson dans les dernières semaines, d'aller justement là où ça paye, là où ça fait mal aussi. Mais encore une fois, on dit souvent que la circulation, c'est la pire ennemie du traçage visuel des gardiens de but. Et c'est exactement comme ça que le Canadien a été chercher de ses deux dernières victoires.
Exactement, Daniel. Alors, bien hâte de te voir ou de te revoir en personne demain soir, alors qu'on va faire un petit spécial de Noël. Une bonne soirée et puis à demain, ma chère.
Merci beaucoup. À demain.
Bye, Daniel. Et bonne fin de soirée. Dans un instant, Sylvie Fréchette, on va parler du documentaire Sylvie Fréchette, Retour à Barcelone. Ça a dû être quelque chose pour elle de retourner là-bas un peu plus de 30 ans après sa performance olympique de 1992 à Barcelone.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour les fidèles du sport.
Avez-vous eu l'occasion de regarder le documentaire Sylvie Fréchette, Retour à Barcelone, disponible sur la plateforme TouTV depuis quelques jours, depuis le 10 décembre, en fait, depuis quelques jours à peine, mais qui sera diffusé à la télévision traditionnelle cette semaine, ce jeudi 21 décembre, à compter de 18h30. Je ne sais pas ce que Sylvie Fréchette représente pour vous, mais je vais parler pour moi, puis je pense que je parle, parce que je ne sais pas si votre perception est la même, mais Sylvie est une femme qui fait partie de nos vies depuis quelques décennies sans la vieillir et sans nous vieillir, mais c'est ça qui est ça. Elle est entrée dans nos vies en gagnant des médailles, des compétitions de nage synchronisée. Elle est devenue championne du monde, championne olympique, non sans une controverse, marquée par une tragédie juste avant les Olympiques de 92, mais par la suite, c'est le Cirque du Soleil, c'est de l'animation à TVA, c'est une incursion en politique et un rôle comme chef de mission adjointe. Donc, en gros, là, Sylvie, pour moi, c'est comme quelqu'un, c'est comme Carl Tremblay des Cowboys fringants, tu sais, que tu connais, mais que tu connais pas, tu sais. C'est quelqu'un qui fait partie de la famille. C'est une voix familière. C'est un visage familier, attachant. Et, bref, je suis toujours content d'avoir une occasion de lui parler. Et on a cette occasion-là ce soir pour rappeler aux gens que le documentaire est diffusé jeudi. Et c'est pas banal ce qu'elle a vécu pour le documentaire. Accueillons-la sans plus tarder. Bien le bonsoir, Sylvie.
C'est donc ben beau, Mario. Allô?
Allô? Ben, t'es fine de l'accueillir comme ça. Mais c'est comme ça, je le sens. C'est vrai, c'est vraiment ça. Tu fais partie de nos vies, puis t'as dû te dire des fois, Sylvie, dans ta vie, ou quelqu'un a dû te dire, ma vie, c'est un film, ou ta vie, c'est un film. Et là, on l'a, le film. Parce que, puis même, ça couvre pas toute ta vie, mais c'est vrai que ta vie, quelque part, tu dois t'être dit ça de temps en temps, ma vie, c'est un vrai film.
Ben oui, ma vie est vraiment pas banale. Mais tu sais quoi, elle est belle en temps, ma vie. Il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est jamais plate. On s'ennuie jamais.
Ben, je comprends donc. Et là, quel projet? Parce que t'avais envisagé, je relisais des articles où t'avais envisagé de retourner à Barcelone avec tes filles, puis finalement, pour le 30e anniversaire, mais c'est le tournage de ce documentaire-là qui t'y a ramené. J'ai été ému. Et pas, j'ai pas été le seul à l'être ému par le simple fait de te revoir plonger. Et même si tu n'as pas ou peu de souvenirs de ta compétition, de ta performance à 92, reproduire ta routine qui t'a permis de gagner l'or à retardement, mais qu'est-ce que ça a été comme expérience?
En fait, toute l'expérience est difficile à résumer. Je pense que ça va me prendre des mois et des mois avant d'être capable de comprendre ce que j'ai vécu. Quand on était là-bas, en fait, moi, je voulais retourner à Barcelone, mais je pense que j'avais peur. Je ne sais pas de quoi, mais j'avais peur. Tu sais, moi, je suis bien forte sur la fuite. Là, c'était comme moi, j'ai pas le temps. Après, il y a eu la COVID. Il y avait toujours une bonne raison pour ne pas y aller. Mais là, est arrivée cette opportunité-là, la conférence que j'ai faite, avec les gens de voyage en direct, et puis là, qui me dit qu'ils sont touchés par mon histoire, puis quand ils me demandent, Sylvie, où t'aimerais aller, n'importe où à travers le monde, et moi, qui sors Barcelone. Oui, c'est beau, Barcelone, mais tu sais, il y a tellement d'autres places à travers le monde, puis quand j'ai dit Barcelone, je me disais, qu'est-ce que tu dis là, la mère, là? Et là, quand ils m'ont dit pourquoi, ce qui est sorti, c'est parce que je m'en souviens pas. Et ça faisait une heure que j'étais en conférence avec ces gens-là. Et quand j'ai dit ça, le président, M. Villeneuve, a tout simplement dit, ben, Sylvie, ben, moi, là, je m'engage. Je m'engage à ce qu'on te ramène à Barcelone pis on va être là avec toi. J'étais émue, touchée, ébranlée, surprise. Écoute, le mix d'émotions. Ben, là, on était en COVID. Fait que ça a pris 3 ans avant que ça puisse se réaliser.
Okay.
Et là, moi, je m'en allais là avec eux, puis ma famille. Et là, c'est Jacinthe Taillon, qui est journaliste à Radio-Canada, mais qui est surtout une médaillée olympique en nage synchro des Jeux de 2000, qui me demande mes impressions parce qu'elle prépare un documentaire pour Podium.
Et là, à la fin de l'entrevue, elle me dit, Sylvie, comment tu vas? Ça me fait longtemps que j'ai pas eu tes nouvelles. Puis je dis, Jacinthe, tu devineras jamais, je retourne à Barcelone. Et ça, c'est 3 semaines avant le départ, là.
Hey, c'est bon.
Qu'est-ce que tu vas faire là? Et là, elle me dit, ben là, j'y explique. Je retourne là avec mes filles. Là, je lui explique que je suis entrée en contact par Instagram avec Gemma Mengual, qui est une idole pour toutes les deux, et que Gemma a accepté de me raconter mes Jeux olympiques parce que Gemma, elle avait seulement 15 ans aux Jeux olympiques de Barcelone et elle était bénévole. Donc, elle se souvenait très bien de moi, de ma performance, de la piscine, de l'environnement. Alors, c'est par Instagram que Gemma Mengual a accepté de me raconter mes Jeux. Et là, je racontais ça à Jacinthe et Jacinthe pleurait sa vie. Et là, elle me dit, mais qui couvre ça? Puis, ben, personne. Là. Mais qui c'est que tu t'en vas là? Je vais en Jacinthe. Je n'ai pas envoyé un communiqué de presse. Là. Je parlais avec mes filles. Là.
C'est trop bon.
Ouais. Puis elle dit, moi, je veux partir avec toi. Alors, c'est comme ça, en date de quelques semaines, l'équipe était montée, ils m'ont suivi. Et écoute, quel documentaire! C'est...
Ah, hey, écoute, c'est quelque chose. Là. Bravo à Jacinthe. Ah, oui, oui, oui. Mais, tu sais, il y a une spontanéité aussi dans je pense que ça se traduit également dans le résultat final. Je sais pas si tu avais décidé de plonger pour reproduire ta routine. Comment c'est venu, ça, dans le tournage, Sylvie? Parce que ça, c'est quelque chose, là.
Et ça, c'est une surprise. Parce que Gemma pouvait pas nager longtemps avec Emma et Maya, avec mes deux filles dans la piscine. Fait qu'on est plongé, on a fait les moments, les quatre ensemble, et après, Gemma, elle est sortie. Et moi, j'ai dit, je veux juste rester dans l'eau encore un peu. Et là, Jacinthe, elle me dit, ben justement, on a une surprise pour toi. Et là, je l'ai regardée. Et ils ont réussi à isoler juste la trame sonore de Barcelone, mais en partant de quand ils me présentent. Donc, on entendait la vraie voix de la madame d'il y a 31 ans qui me présente concurrente numéro 8 du Canada. Et là, elle a fait jouer ça et là, on entend les applaudissements en arrière. Et on entend comme le « Oh! » Et là, ma musique qui part. Mais j'imagine que Jacinthe a fait ça pour essayer de faire remonter des souvenirs. Mais moi, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est comme si mon corps a pris possession du moment. Il fallait que je nage. Il fallait comme... C'est comme si, en un claquement de doigts, je me suis retrouvée à 25 ans. Puis qu'il fallait que je nage. Puis on s'entend que j'ai plus 25 ans, puis je suis en forme.
Écoute, moi, je trouve qu'on est pas mal à avoir trouvé que tu étais encore pas mal en forme. Moi, j'en revenais pas parce qu'ils ont superposé les images, puis là, on voit la routine, puis ta mémoire corporelle est intacte. C'est comme si... Écoute, je sais pas ce qui s'est passé dans ta tête, dans ta vie, après ce moment-là, quand tu dis que tu en as oublié des grands bouts, il y a comme un trou, mais c'est comme si une jonction qui s'était faite, là.
Mais je pense que le moment de Barcelone... Ce qui a fait que ça a été possible pour moi de nager à ce moment-là, avec toutes les épreuves personnelles que j'avais vécues, mais c'est grâce à l'entraînement de béton que j'ai eu avec Julie Sauvé, mon entraîneur, avec André Coulécha. C'est que toute ma vie, tout ce qui me faisait peur, je le faisais 100 fois plus. Tout ce qui me faisait peur, je le faisais. J'étais malade, je faisais ma routine. Moi, j'avais peur de faire mes routines au complet parce que c'était extrêmement demandant et exigeant. J'avais peur toujours de ne pas être capable de la finir. Donc, j'arrivais, j'étais fatiguée, je la faisais 2 fois. J'avais de la fièvre, une gastro, j'avais un examen le lendemain, ton chum t'a laissé, tu files pas, et il pleut, il neige, et c'est le matin, c'est le soir. N'importe quoi qui me dérangeait, je le faisais pareil. J'ai de la fièvre, je le fais. Qu'est-ce que je vais faire si j'ai de la fièvre en compétition? Fait que dans n'importe quelle circonstance dans mes entraînements, je faisais toujours mes routines au complet, surtout quand ça me faisait peur.
Tu étais programmé et c'est profond. C'est entré profondément en toi pour que tu ressurgisses à 50 quelques poussières et de reproduire ta routine au son de la présentation. C'est incroyable.
J'ai l'impression que j'ai été brûlée. Puis je te le dis, Mario, là, j'avais la tête en bas, puis mes corrections revenaient. Les corrections que j'avais il y a 31 ans, parce que dans le temps, là, la musique partait, pouf, c'était comme une cassette. Ben, dans mon temps, c'était des cassettes, là, mais c'était comme une cassette qui partait avec tout ce que je devais penser à chaque mouvement. Mais tu sais, c'était plus vite dans ma tête que je suis capable de le dire, là. Mais c'est que étire, tourner, go, relax, et plus haut, bras droit, et go, respire. Le juge, l'épaule, tout. Mais c'était là, c'est revenu dans ma tête. C'est complètement fou.
Qu'est-ce que ça a été de vivre ça avec tes filles, Sylvie?
Oh, c'était vraiment le fun. Ils sont belles, hein?
Ils sont incroyables, comme le maire.
Oh, t'es fin. Mais c'est quoi? C'est un cadeau aussi de. Parce que, tu sais, on se voit pas dans le quotidien avec nos enfants, comment on interagit et tout ça. Et l'équipe de tournage était tellement discret que souvent, je ne savais même pas qu'ils filmaient. Fait que j'ai trouvé ça beau de voir à quel point la relation que j'ai avec mes pitounes, avec mes filles. On voit qu'elles veulent me protéger, ils sont proches de moi, on voit la tendresse, on voit le respect, la complicité aussi. Tu sais, quand ma belle Maya est venue me prendre par la taille, puis qu'elle est venue me parler, là, elle me disait, là, maman, tu vas en avoir des souvenirs, puis elle a fini, je t'aime, maman. Tu sais, comme, oh my God, mais je savais même pas qu'il filmait. Fait que ça, c'est... Ah, oh, c'était vraiment quelque chose.
Ben, je suis content que tu l'aies vécu.
J'ai encore la chair de poule.
Ben, tu nous la donnes par procuration. Je pense que beaucoup de gens l'écoutent, là, qui sont pas loin du moton, qui ont les yeux mouillés juste à t'écouter. J'en vois un s'essuyer les yeux en ce moment même. Juste te donner une idée. Mmh. Puis il y a des hommes dans ma régie, alors c'est vraiment tout le monde qui l'accueille avec beaucoup d'émotion. J'ai une question de Sophie qui est à l'écoute et qui te demande, bon, c'est toujours délicat. Moi, j'ai toujours été prude de retourner dans ce moment-là. Tu sais, c'est quelque chose qui t'appartient. C'était, bon, ton conjoint de l'époque qui s'enlève la vie juste avant tes Olympiques, et la question de Sophie qui nous écoute en ce moment, qui t'offre ses salutations. Elle dit, si j'avais une question à lui poser, ce serait, d'où vous vient ce courage lorsqu'une nouvelle si tragique survient dans des moments qui auraient dû être les plus beaux de votre carrière? Comment peut-on trouver cette force de dire, the show must go on?
Je peux pas répondre sur le coup. C'est seulement mon interprétation après coup. Parce que, tu sais, j'étais vraiment en choc. Maintenant, je peux le dire, hein, j'ai souffert d'un choc post-traumatique. J'ai été des semaines et des mois que je ne me souviens plus dans ma vie. Ce que je ressens aujourd'hui, comment je peux traduire mes émotions, c'est que tout à coup, à 25 ans, j'ai comme réalisé que d'être en vie, c'est un choix. Puis, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, ça a été conscient que moi, j'ai fait le choix d'être en vie. Je voulais vivre. Puis que la seule façon qui me restait de me sentir vivante, c'était de nager. Parce que, tu sais, j'avais 25 ans, j'étais fiancée, j'allais me marier. Tu sais, comme j'avais la vie rêvée. Mais là, pouf, tout venait de s'écrouler. J'avais plus de paramètres. J'avais l'impression que je n'avais plus rien. La seule chose qui me restait pour me sentir vivante, c'était de nager. Donc, il fallait que je nage. Il fallait que je nage. Et ça s'est traduit par « Je veux nager, je vais nager aux Jeux olympiques. » Donc, c'est la seule façon en ce moment que je suis capable d'expliquer ce que je crois, ce que je sens en dedans aujourd'hui, ce qui me permet de traduire fort probablement le processus qui s'est passé à l'intérieur de moi il y a 31 ans.
Ben, il y a une logique dans ce que tu nous offres comme raisonnement, mais tu sais, je comprends, Sylvie, je disais que ta vie, c'est un film, mais ben, tu sais, c'est le travail d'une vie, comprendre la vie des fois, surtout quand il y a eu un paquet d'événements comme ça, puis tu vas comprendre tout court à travers des événements comme ça. C'est magnifique et j'espère que les gens qui n'ont pas eu l'occasion de le voir déjà sur Tout TV, eh bien, regarderont ça, 18h30, jeudi 21 décembre. Sylvie Fréchette, retour à Barcelone. Sylvie, merci beaucoup de ta compagnie ce soir à l'émission. C'est très, très apprécié. Bravo pour le documentaire, à l'équipe de réalisation et à toi. Merci.
Oh, merci beaucoup. À très bientôt. Joyeuses fêtes.
Merci. Joyeuses fêtes à toi également. Au revoir. Sylvie Fréchette, championne olympique, qui était avec nous. Le documentaire, ben, nous ramène à ce qu'elle a vécu il y a un peu plus de 30 ans.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.